Souvenir FM.
Il est midi.
L'invité du 12-13 de Souvenir FM. Souvenir
FM. Bonjour à toutes et à tous. Merci David pour l'animation. On te retrouve après cette émission comme tous les jours. C'est l'heure de l'invité du 12-13, votre émission qui met en avant vos acteurs locaux, ceux qui font vivre le territoire. Aujourd'hui, nous recevons Rosa Ducos-Falati, elle est conteur des Landes. Alors, on va vous expliquer ce que c'est, vous en faites pas. Et François Ribéot, qui est agriculteur et collectionneur passionné par la vigne. Et il est conteur aussi. Bonjour tous les deux, comment allez-vous ?
Merci.
Merci.
Très bien.
Très bien, alors on va passer une petite heure ensemble, on va découvrir nos invités. Et voilà, c'est une émission vraiment sur les traditions locales, parce qu'on a parlé hors antenne avec les invités. Ben, des fois, on ne soupçonne pas que juste à côté de soi, il y a un petit trésor qu'on ignore. Et il y a des gens comme nos invités qui sont là pour nous les faire découvrir. On va d'abord écouter le Flash Info national et international, et on se retrouve ensuite pour la première partie de cette émission. Et voilà, c'est parti, on retrouve Rosa et François. Donc, tradition ici, c'est on commence à demander aux invités une petite trajectoire personnelle qui nous raconte un petit peu une partie de leur vie qui, ça nous intéresse parce que, voilà, le patrimoine, les pierres anciennes, les champs, les ruisseaux, c'est bien, mais les gens qui les font vivre, c'est encore mieux. Et c'est ça qui nous intéresse aussi. Si Rosa veut bien commencer à se livrer à cet exercice...
Oui, la partie de ma vie qui m'amène ici a commencé très tôt parce que j'ai toujours été intéressée par le patrimoine, par les objets anciens. Et ma foi, j'ai vécu l'époque où on récupérait tout ce qui était jeté, toutes les vieilleries possibles, chez les belles-mères, chez les voisins, dans les décharges qui étaient en libre accès. L'époque où il fallait acheter une maison ancienne pour la rénover en gardant les poutres apparentes, etc. Et nous avons échoué dans un village des Landes, un tout petit village, et nous avions un voisin qui venait discuter et nous raconter beaucoup de choses sur le passé. Qui m'a donné l'envie d'en savoir davantage. Et également, dans le village, j'ai fait la connaissance d'une personne dont la famille avait toujours habité le village, était dans le village depuis bien avant la Révolution, et qui m'a donné des documents familiaux que j'avais estimé ne jamais être capable de lire, mais enfin c'était des actes notariés et autres documents. Oui. Donc petit à petit j'ai commencé à m'intéresser et à approfondir mes connaissances. J'ai passé beaucoup de temps aux archives, les archives de la commune étant assez riches, passé beaucoup de temps avec les personnes qui, comme moi, travaillaient sur le patrimoine, la société de Borda et des chercheurs locaux. Il y en a pas mal.
Oui.
Et finalement, j'en suis venue à tout savoir à peu près du passé de la commune, de la géographie et aussi des habitants parce que j'ai consacré beaucoup de journées à aller trouver les uns et les autres, à leur demander de me parler de ceci, de cela. J'ai tout noté et un beau jour, j'ai tout mis cela par écrit. Et vous me demanderez peut-être ce que j'ai fait de tout ça.
Et oui, bien sûr.
Eh bien, de tout cela, j'ai d'ailleurs d'abord envisagé d'écrire un livre. Et puis ensuite, l'occasion s'est présentée. Eh bien, j'ai été inspirée par le travail fait par Philippe Dubedou à Doasit, qui est une des premières personnes à avoir créé un site internet. Bon, moi je n'ai pas de site internet, c'est juste un blog.
Oui, un blog, ouais.
Et petit à petit j'ai transcrit le résultat de mes recherches sur ce blog.
Très bien.
qui comporte une centaine d'articles.
Ah oui, on va en parler. Alors, il y a juste une chose, vous n'avez pas cité le nom du village. Il faut peut-être dire qu'il y a le nom du village.
Ah, j'ai droit à la publicité,
ah bah, d'accord. Oui, là, quand même.
Je me posais la question. Oui. Le village s'appelle Laos.
Et voilà, Laos. Donc, on en parlera d'ailleurs même
de
ce nom, la toponymie, tout ça, c'est très intéressant. On parlait de la société de Borda. On a reçu Gonzague et Spinoza d'Assonville la semaine dernière. Et du coup, on a parlé un petit peu hein, des traditions locales. C'est un historien. Évidemment, c'était une émission passionnante. Merci beaucoup. On va se tourner vers François. Alors, François, parlez-nous un petit peu de vous.
Moi, je suis l'aîné d'une famille nombreuse. Et donc, j'ai toujours vécu sur la maison familiale, sur la propriété familiale. Mmh. Donc, j'étais l'aîné d'une famille nombreuse. Donc, j'ai été amené à travailler tout jeune avec mon grand-père, que j'ai perdu très tôt. Et ensuite, j'ai continué à travailler sur la petite exploitation, qui m'a amené à éventuellement avoir goût un peu à la vigne, ce qui m'a amené ensuite à aller travailler à droite à gauche, parce que toute petite exploitation ne générait pas assez d'argent. Donc, ça m'a permis j'ai fait, disons, un peu 1000 métiers, oui. Je dirais, oui. Pour aller un peu. Donc, ça m'a enrichi un petit peu. Le dialogue avec les personnes où j'allais travailler. Mmh. Et ensuite, petit à petit, il m'a pris le goût là, de vouloir récupérer un peu comme Rosa.
Oui.
Je voyais à droite, à gauche, ça pourrait peut-être me servir.
Je fais tout ça.
Et après, un beau jour, j'ai eu l'idée de vouloir faire donc le musée, c'est un grand mot là. Montrer aux gens là, tout le travail de la vigne, puisque je suis un peu attiré par la vigne. Bon, malheureusement, je suis le dernier du village avec ma petite vigne. Donc, et c'est pour ça que je présente tout ce qui est les vieux outils et la façon dont on travaillait depuis l'âge de 15 ans à aujourd'hui. Donc j'ai tous ces genres d'outils et je raconte aux gens quand ils viennent comment on travaillait, parce que c'était quand même assez rude.
Ben oui.
Alors c'est pour ça que je montre ça pour le moment.
Bien sûr, hein. D'accord. Vous êtes sur Laos aussi.
Oui, voilà. Oui, je suis loin, on est voisins.
Voilà. Très bien. Alors, oui, alors c'est l'émission. C'est vrai, j'ai reçu il n'y a pas très longtemps Aurélie Bourcage-Bernut. On a parlé des ouvriers qui venaient construire au Segor, etc. Elle est un peu comme vous. C'est un particulier, ce n'est pas une professionnelle, mais passionnée, qui s'est passionnée de généalogie, d'histoire, et de patrimoine, de culture. Et petit à petit, elle a accumulé beaucoup de connaissances et d'écriture de textes. Hein. C'est un peu la même démarche que vous. Hein. Alors, c'est vrai qu'on a reçu. Le président de la société de Borda, lui, c'est un historien, hein, voilà, il a un doctorat d'histoire, il a fait des études, voilà. Mais ça n'enlève rien à l'intérêt du chemin de discuter avec des gens comme vous, parce que vous-même, vous en avez parlé, vous l'avez fait, c'est très important, la transmission orale, d'aller parler avec des gens, et tous les gens ont une histoire à raconter. Hein, chaque personne est une encyclopédie, une bibliothèque. Hein. Donc vous-même, vous avez appris beaucoup des autres.
Oui, tout à fait, oui. Et là, dans la mesure du possible, on essaye de transmettre maintenant aux nouvelles générations. Certes, ils ne sont pas très, très touchés par ça, mais certains sont quand même intéressés de savoir, comme vous venez de dire, comment on travaillait il y a encore 30 ans et maintenant. Certes, bon, c'était très dur autrefois, mais on n'avait pas les soucis financiers et moraux qu'ont maintenant les jeunes de maintenant.
Ah oui, c'est vrai.
C'était dur, c'était dur physiquement.
C'était dur, mais plus simple.
Oui.
C'est ça, les choses, les objectifs, les buts à accomplir, et il y avait moins de questions à se poser.
On ne se posait pas de questions. On vous disait aller travailler, et puis, quand il y a besoin de travailler, vous aviez du travail partout, pour une demi-journée, une journée. Et puis les travaux à la ferme, comme c'était rudimentaire, vous rentriez de l'école, les devoirs, il n'y en avait pas. Quand on était nombreux, donc il fallait, on vous disait aller au champ, amener les vaches, aller garder les canards, ou aller à la vigne, donc, et tout ça très jeune. Donc,
oui, bien sûr.
Disons que quand on peut transmettre aujourd'hui ce savoir-faire, c'est un grand mot, mais cette façon de travailler il y a 40 ans, et quand je vois maintenant, là, moi j'ai commencé avec un petit tracteur qui était grand comme trois pommes.
Oui.
Maintenant, j'ai les voisins à côté.
Qui coûte le prix d'une maison, le tracteur. Hein.
Ah oui. Que le tracteur.
Oui, que le tracteur.
Que le tracteur. Après, vous ajoutez tous les outils derrière. C'est impressionnant.
Oui.
Et il se greffe là-dessus. Maintenant, toutes les charges
Bien sûr, oui.
Toute charge financière et surtout administrative, qu'on n'avait pas il y a encore une trentaine d'années.
Bien sûr. Alors, on va commencer cette émission. On va parler, retourner un petit peu vers Rosa. Effectivement, vous avez construit un blog. Alors, on s'est mis en contact par Internet, hein, sur un groupe Facebook de passionnés d'histoire, de tradition, de culture et de transmission. Hein, parce qu'on est bien dans la transmission. Hein. On va parler de tout ça. On a d'abord une petite pause à faire, hein, une petite pause musicale, parce que c'est déjà le moment. Ah, je vous avais prévenu que ça allait très vite. Voilà, on va écouter une petite musique et on se retrouve ensuite et on va attaquer un petit peu tout ça. Et voilà, de retour avec nos invités. Alors, on va parler un petit peu au début, j'en ai parlé, les compteurs des Landes. Alors, qu'est-ce donc ces fameux compteurs? Parce que ça, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ne connaissent pas. Parce que moi, je ne connaissais même pas, en fait. Voilà. Rosa.
Oui, concernant ce que j'ai fait de toutes mes recherches, de tout ce temps passé, récemment, l'Office de tourisme m'a contacté pour intégrer les compteurs des Landes. Les compteurs des Landes, ce sont des personnes qui, dans chaque canton, ont... travailler sur un sujet ou une technique, en fait, qui ont quelque chose à montrer et à faire découvrir. Le principe est simple, vous contactez sur le site de l'Office de tourisme, vous avez en général la liste des compteurs avec leurs photos et le sujet de leurs prestations.
Oui, tout à fait, oui. Oui, donc voilà. Chacun a une spécialité et donc on peut trouver les gens en fonction du sujet qu'ils ont particulièrement travaillé.
Oui, alors, il faut passer par l'Office de tourisme. Hein, vous ne pouvez pas contacter la personne directement. Vous faites votre choix selon l'intérêt que présente pour vous le sujet. Et l'Office de tourisme contacte normalement la personne, vous met en contact et vous organise une visite.
Oui, d'accord.
À Landes... notre office de tourisme à Landes, je ne sais plus comment il s'appelle, Coteau de Chalos, quelque chose comme ça, met des visites à son programme. En accord avec les compteurs, il fixe des dates et ainsi les personnes qui consultent le programme ou l'agenda de l'Office de tourisme savent que tel jour il y a telle visite prévue.
C'est très bien. Voilà. Oui, vous êtes des sortes d'ambassadeurs culturels.
Oui, au départ nous étions intégrés à un organisme d'inspiration américaine qui nous obligeait à utiliser un terme américain qui était assez difficile à prononcer et assez difficile à porter.
Oui, c'était Greeters.
Greeters.
Oui, voilà.
Greeters,
prononcé. C'est pas très traduit tout ça. Hein,
pas du tout. Et puis, il y avait des contraintes très précises. Et maintenant, la liberté est plus grande. Et nous sommes devenus donc compteurs des Landes.
Voilà. Mais c'est pas mal, comme
nous racontons comme Ulysse, comme Homère racontait les voyages d'Ulysse.
D'accord. Alors justement, on va parler un petit peu. Alors, Rosa, c'est quoi votre sujet de prédilection quand on vient vous voir en tant que conteur des Landes? De quoi vous parlez aux gens? Vous faites découvrir quelle chose?
Pour des raisons de pratique, j'annonce découverte de l'église. Construite en 1929.
Oui.
Hein, ceci pour poser une sorte de mystère. Quel pourrait être l'intérêt d'une église construite en 1929?
Oui, c'est récent, en fait.
Et bien entendu, pour faire découvrir l'église, je dois raconter un petit peu son histoire. Et également l'histoire du village, qui est un petit peu l'histoire de tous les villages des Landes.
Voilà. Oui. Oui. Et donc oui, c'est une église 1929. C'est vrai que c'est. Alors c'est pas la première église. Il y en avait une avant, je crois.
Ah oui, 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 oui. Bien entendu, oui. Mais... le département des Landes comporte à peu près 440 églises qui ont été construites à l'origine entre le 11e, 12e et 13e siècle.
Mmh. Oui, c'est vrai. Oui.
Et au siècle dernier, non, à l'avant-dernier, au 19e siècle, vers 1850, eh bien, il y a eu une mode qui voulait que l'on démolisse l'ancienne église pour en construire une neuve.
Ah ouais, tiens.
Surtout dans le sud de la Dour.
Mmh.
La Hausse y a échappé, bien que nous ayons eu un projet d'église néo-gothique avec un clocher très élancé.
Oui.
Ce projet n'a pas abouti, mais enfin l'église était en très mauvais état et elle a quand même été démolie en 1926 et reconstruite. Reconstruite par des architectes et des décorateurs qui ont travaillé comme on travaillait à l'époque.
Oui,
ce qui fait qu'à l'heure actuelle, on a découvert qu'elle pouvait être classée au titre des monuments art déco.
Et oui, voilà.
Pas pour l'extérieur, mais pour l'architecture intérieure.
Ah oui, d'accord, l'intérieur. Voilà. Même les vitraux sont spéciaux, les motifs et tout ça, non?
Non, simplement les colonnades essentiellement. Parce qu'en fait, c'est une église un peu mixte. Parce que... Elle est un peu mixte en ce sens qu'elle est moderne, elle est art déco, et puis en même temps, par beaucoup de côtés, elle évoque l'ancienne église.
Oui.
D'ailleurs, certains éléments ont été réutilisés, notamment les vitraux, justement.
Oui, d'accord.
Il y a des vitraux modernes, oui, dans le chœur, parce que le chœur des églises primitives, même si elles ont survécu... jusqu'à nos jours, était très réduit. Mais comme c'était la partie la plus solide de l'église, dans beaucoup d'églises anciennes, parce qu'il y a quand même beaucoup d'églises anciennes intéressantes les Landes,
tout à fait,
le chœur a survécu.
D'accord, oui. Alors, c'est vrai qu'il y a des églises qui font un style un peu particulier. Je pense par exemple à celle de Saint-Jour, d'autres qui sont. Elles ont une apparence particulière parce qu'elles sont un peu fortifiées, hein, d'une époque particulière. Ce qui leur donne pas une. Comment dire, elles ne sont pas très fines, elles ne sont pas très élancées. Il y a quelque chose d'un peu de massif dans la construction. Certaines églises.
Je suis en train de travailler d'ailleurs sur l'histoire des églises des Landes, parce qu'en fait, c'est assez homogène au départ. Ensuite, évidemment. C'est l'histoire, toutes les vicissitudes, selon le cas, elles ont suivi un parcours particulier.
Oui, c'est ça, oui.
Et beaucoup d'entre elles, leur parcours s'est arrêté dans la deuxième moitié du 19e siècle.
Et oui, voilà, c'est ça. Oui, c'est, oui. On peut penser à la Révolution, où il y a dû en avoir quelques-unes. Peut-être, parce
non,
que,
à la non, Révolution, plutôt, elles ont été malmenées.
Voilà, mais pas...
Transformées en greniers.
Oui, oui.
À une période antérieure, elles ont été incendiées et pas tout à fait détruites parce qu'il restait toujours les murs, aménagées selon les besoins de l'époque. À l'époque de la guerre de Cent Ans, oui, il a fallu les fortifier dans les zones où il n'y avait pas de château et où il n'y avait pas de hauteur pour y édifier un lieu où on pouvait se réfugier.
C'est vrai que dans les Landes des Hauteurs, il n'y en a pas énormément. Hein. C'est
un petit peu, on culmine quand même à 90 mètres en Chalosse et à 120 ailleurs.
Oui, oui.
Un petit peu plus loin.
C'est vrai, justement, j'en ai parlé tout à l'heure en antenne, à Pembo, là-haut, on est assez haut, hein, on a une belle vue. Hein, je crois que c'est peut-être le village le plus haut des Landes, je crois. C'est fort possible.
Il doit être dans cette zone, ils sont peut-être plusieurs se disputer ce titre.
C'est ça, voilà. Ben, très bien, ben, merci beaucoup. Alors, c'est le moment de faire une autre deuxième pause et on va écouter le Flash Info local. Et après, on va cuisiner un petit peu François. Allez, à tout de suite. Et nous voilà de retour. Alors, c'était Johnny Hallyday et Michel Berger. C'était pas, on peut pas dire que ce soit des perdreaux de l'année, hein, quand même, ceux-là. Hein, c'est des classiques, on peut le dire. Hein. Alors, oui, on va discuter avec François aussi. Alors, François aussi a ce statut-là de conteur. Lui, il est spécialisé vraiment dans la vie.
C'est un grand mot, spécialiste. N'exagérons pas trop.
Ne soyez pas trop modeste. Vous allez nous en parler. C'est votre vie. Le vin aussi, vous avez la vigne, etc. Ah. Et donc, vous avez accumulé des connaissances et des objets. Et donc, vous avez une sorte de petit musée, on va dire.
Un petit musée qui retrace éventuellement, toute la vie ancienne de comment on travaillait le vin.
Bien sûr,
Depuis la taille, le labour, parce que autrefois les vignes, maintenant, il ne faut plus travailler les vignes, il faut laisser pousser l'herbe. Mais autrefois, ils avaient une certaine fierté de labourer la vigne pour ne pas que l'herbe pousse.
Oui.
Donc, il y avait des outils rudimentaires que j'ai pu récupérer pour montrer comment ils travaillaient.
Oui.
Donc après tout le travail de la vigne, parce que c'est pas une petite affaire la vigne, commence à tailler, dès que vous commencez à tailler dans la vigne, c'est du travail jusqu'à la récolte.
Oui.
Enfin, pas tous les jours, mais assez assidu. Mais après, il faut faire ce travail de la vigne avec passion.
Oui.
C'est du travail, c'est du vent, beaucoup de travail. Mm-hmm. Donc après, quand il arrivait les vendanges, les surfaces étaient un peu importantes à l'époque, et puis il y avait de grandes quantités de raisins, donc c'était tout à la main, on ne parlait pas de machines, donc on se retrouvait des fois au moins, dans le quartier, on était au moins 15 ou 20 personnes à vendanger.
C'était convivial,
oui. Aujourd'hui c'était moi, demain c'était le voisin, parce qu'il y avait 7-8 voisins, et puis je vous dis, les surfaces de vignes, maintenant il n'y en a plus, mais elles étaient énormes, donc on passait presque 20 jours à vendanger à droite à gauche, même que chez moi on vendangeait déjà 3 fois.
Oui.
Donc après les vendanges n'étaient pas mécanisées, donc pour porter la récolte, maintenant c'est les machines, mais autrefois on avait une forme de bon, c'était un terme gascon, c'était le cubate, c'était un ustensile où on mettait combien, 10 kilos de raisin sur votre tête. C'était quand même, et après on amenait ça au coin du champ, dans un brosque où il y avait le fouloir pour écraser le raisin.
Voilà, c'est ça, oui.
Mais moi j'ai vu une toute petite ferme, on portait le raisin à coups de brouette. C'était pas très loin, il n'y avait pas de tracteur, il n'y avait pas de bête, il y avait un carré de vigne. Rendez-vous compte un peu avec une brouette, et en plus, je l'ai récupérée, parce qu'elle a plus de 100 ans cette brouette, les roues en bois.
Rendez-vous compte dans les
champs un peu, comme c'était facile à rouler. Mais enfin, après, on a mécanisé, donc après c'était du travail pénible, parce qu'après, quand la vendange était terminée le soir, il fallait s'occuper de toute la nuit. D'écraser le raisin, parce que le lendemain, vous n'aviez pas le temps, puisque c'est le voisin qui vous attendait. Alors donc, et c'est là que je vais vous dire aussi, les fûts demandaient énormément de travail, de nettoyage, d'ébouillantage, parce que un fût qui passait toute l'année sans vin, au mois de septembre, il fallait l'ébouillanter. Donc, il vous dit ébouillanter, faire chauffer de l'eau, le rincer.
Éviter les moisissures. Les
moisissures.
Bon, quand on fait les confitures. Hein,
pareil. Oui. Donc, après, quand on avait vendanger, là, c'est pareil. On n'avait aucun outil pour remplir les fûts. Donc, on faisait ça avec un gros tonneau qu'on portait à deux, qu'on allait renverser dans les gros fûts, parce qu'il y avait. Il y avait la demi-mi, qu'on appelle la demi-mi, c'est un fût qui fait 600 litres.
D'accord.
Ensuite, vous avez la barrique qui fait 300 litres. Et ensuite, il y avait le petit baricote qui faisait 20, 30 ou 50 litres.
D'accord.
Donc, on passait une bonne partie de la nuit à presser le vin. Presser le vin, c'était quand même assez dur.
Oui.
Bon, c'était tout à la main, il y avait bien sûr. Ensuite, quand les barriques étaient pleines, parce qu'il y en avait beaucoup de récoltes. Donc, 2 jours après, il y avait un marchand de vin qui venait récupérer c'était encore du mou, là.
Oui, c'est pas encore.
Il venait récupérer, puisque quand on vendangeait pour la seconde fois, ce vin, on le gardait pour faire un peu d'argent qu'on vendait au mois de février-mars.
D'accord.
Donc, mais là, c'était pareil. Là, quand le vin avait fini de fermenter, il faut le soutirer. Dans le fond de la barrique, il y a le dépôt. Donc, il fallait soutirer ce vin. Pour conserver le vin, il fallait mettre dans le fût qui était propre à côté. La mèche de soufre, comme vous dites.
La mèche de soufre, bien sûr. Oui.
La mèche de soufre, mais je ne vous dis pas, quand vous vidiez une barrique dans l'autre,
c'est fort.
Ça vous brûlait les yeux, ça vous piquait la gorge. Et sans la mèche de soufre, il était quasiment impossible de conserver le vin.
Oui.
C'est pour ça que des fois, je me suis retrouvé des fois, chez des voisins ou autres, avoir du vin...
Moyen.
Vous êtes modeste, moyen.
Oui, je suis gentil.
Oui, c'était plus... On va dire les mots, même de la piquette, et d'autres même, presque imbuvables, compte tenu que les tonneaux et les fûts n'étaient pas bien entretenus.
Oui, c'est ça.
Alors, donc, ce qui fait que dans la partie du vin, une fois soutiré, on avait la possibilité de faire un peu d'argent au mois de on le vendait pour faire un peu, pour racheter quelquefois un peu d'engrais pour le maïs ou comme ça.
Oui.
Et je me souviens, le marchand de vin, on était à côté, à Montfort, là. Et je ne vous dis pas que dans le petit bistrot, là, parce qu'il y avait le marchand de vin, il attendait, il n'y avait pas de carnet de chèque. Parce que là, c'était payé, on ne parlait pas comme maintenant, c'était tout déclaré. Autrefois, c'était en liquide.
Oui.
Mais il n'y avait pas de somme, quand même. Mais il y avait un monde dans ce bistrot, comme partout. Là, alors, ce qui fait que la vigne... Alors, maintenant, je garde les vieux outils, je montre, comme je viens de vous dire, éventuellement, toute cette... Bon, je la raconte... mais c'est vrai que ça demande quand même... Quand quelqu'un vient voir la maison, demande. Et puis en plus, ce qu'il y a de bien, c'est que quand j'ai des gens qui viennent, ils vous posent des questions. Moi, je raconte ça et ça, mais eux veulent savoir. C'est ça qui m'enrichit à moi. J'enrichis les personnes aussi, puisqu'ils veulent savoir ça et ça, quoi ça sert, et pourquoi et comment. C'est là où je dis dire que ça me fait plaisir de pouvoir renseigner ces gens-là. Et puis je vous dis, ils sont curieux de nature, ce qui est normal. On est là pour ça.
Oui. Voilà. Moi, je me posais une question. Là, c'est, vous avez parlé de la difficulté du travail pas mécanisé, mais est-ce que dans les activités que vous avez connues au début, est-ce que vous étiez aussi un petit peu épaulé par des animaux? Alors, c'est-à-dire des chevaux ou des bœufs?
D'abord,
c'était. Tirer des choses.
Le brosse qui tirait la vendange, c'était des bœufs.
Ah, voilà.
Ensuite, bon, après, il est arrivé. Dans les années 70, il y a eu un petit tracteur là qui faisait à l'époque, il faisait 20 chevaux. On a commencé par après c'est le tracteur qui tirait, on a commencé à mécaniser, mais dans les années 60, on a fait quand même pas mal beaucoup à la main. Hein, il y avait les animaux.
Très bien. Alors, je vais demander un petit peu à Rosa aussi. Bon, bien sûr, on ne pourra pas parler de tous les sujets. On a bien compris qu'il y a beaucoup de choses à dire. C'est ça qui est intéressant. Bien entendu, on trouvera moyen de renvoyer les gens vers vous, hein, à un moment donné, qu'ils puissent venir vous toucher, vous rencontrer, vous contacter, qu'ils puissent participer à non pas vos visites, mais découvertes. Hein, ça, Rosa, elle a fait la nuance entre ces deux termes, n'est-ce pas?
Oui.
Le mot est bien approprié.
Voilà, la découverte, parce que c'est des choses qui sont juste à côté de chez nous, juste à côté de chez nous, à 2 mètres des fois, et puis même en étant, quand on est landais du coin, ben on ne connaît pas tout. Hein, donc c'est vrai que vous jouez un petit peu le rôle d'ambassadeur culturel et de la tradition des Landes, et ça c'est sympa, vous pouvez transmettre vos connaissances accumulées avec le temps et vos passions aussi.
Donc, oui, et le contact direct est toujours très apprécié les visiteurs. Et je dois dire que j'ai eu des visiteurs de Laos et des villages voisins qui, curieux de savoir ce qu'on pouvait dire de l'église.
Oui, c'est vrai, parce que moi je me rends compte, les émissions qui parlent de ça, hein, du patrimoine, de l'histoire vraiment local, etc. Moi, ça intéresse beaucoup les gens. C'est vraiment un sujet qui intéresse les gens. Ils s'intéressent à ce qui s'est passé chez eux, pourquoi, comment. Même des fois ici, on va parler du Sablard qui est passé de Saint-Paul à Dax, la gare et tout ça. Il y a toujours des sujets qui fâchent, bien sûr.
Ah, toujours.
Oui, ça, c'est...
Oui, mais de nombreux villages aussi ont un petit livre qui... Mmh. résume ou qui raconte, en fait. Il n'en existe pas à Laos, mais il y a la possibilité de tout savoir sur Laos.
Ah oui, alors il n'existe pas à Laos, mais il y a votre blog, hein, ça je mettrai. Oui, alors je tiens à le dire parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Hein. Ce n'est pas la petite page web avec trois petites rubriques, je vous assure, hein, je mettrai le lien. Il y a vraiment un travail accumulé qui est très important et intéressant et même... Et même, entre guillemets, si vous n'êtes pas une professionnelle, on sent qu'il y a une, comment dire, il y a une rigueur et une, vous faites attention à une plausibilité de ce que vous dites, aux sources, et vous ne racontez pas n'importe quoi.
J'essaie quand même de ne pas recopier tout ce qui se dit,
voilà, c'est
tout
ça.
Ce qui est écrit ailleurs, et de citer mes sources.
Voilà, ben, c'est tout à votre honneur.
Voilà.
Ben, c'est très bien, mais c'est important.
J'ai fait notamment l'inventaire de toutes les maisons du village, donc... depuis l'époque pour laquelle on a des documents, c'est-à-dire le 14e siècle quand même pour certaines, et je me suis attachée à donner l'étymologie du nom de la maison.
Oui.
Je me suis même fait aider par Madame Feignier. Et par M. Dubedou, Philippe Dubedou, et d'autres personnes très compétentes. Certains noms ont gardé leur mystère.
Et oui.
Je n'ai aucune explication. Et également, j'ai ma première enquête à porter sur le nom du village, justement.
Ah ben oui, parlons-en. Oui,
parce que Hoss, en gascon, Hoss... C'est un fossé, hein, une fosse, un creux, comme tout le monde le sait. Et quand j'ai commencé mes recherches, on m'a raconté, Laos, on sait d'où ça vient. Ah, très bien. Eh bien, à l'origine, le village s'appelait Sainte-Geneviève.
Ah.
Et un jour... À une époque donnée, il y a eu une grosse épidémie et la moitié des habitants ont péri dans cette épidémie et ont été enterrés dans une fosse commune.
Ah oui.
Et à partir de là, les gens qui allaient de Montfort à Mugron, et avant les routes départementales, il fallait effectivement, si on voulait se rendre de Montfort à Mugron, je ne sais pas pour quelle raison, parce que les deux villages n'avaient pas beaucoup de contacts, eh bien, il fallait passer par Laos, pas par le centre, mais par traverser le Lutz et par ce qu'on appelle... sur les cartes de Cassini, le bas de Laos. Donc, eh bien, à partir de ce moment-là, les gens ont dit, eh bien, je suis allé à Mugron ou vice-versa et je suis passé par la fosse. Et Laos a changé de nom et a abandonné Sainte-Geneviève. Pour devenir Laos.
D'accord. Alors, Sainte-Geneviève, c'était plus gai quand même que la fosse, hein, on va dire, dans l'histoire.
C'était pas très flatteur, mais tout de même.
Oui, voilà, c'est comme ça.
Alors, si vous posez des questions, quelle épidémie, à quelle époque ?
Eh oui, ça vous savez pas. C'est pas la peste, c'est pas...
Pas de réponse, j'en sais rien.
Oui, il y en a eu des épidémies.
Mais alors, comment le sait-on ?
Eh oui, bonne question.
Oh, ma belle-mère le disait. Et finalement, on m'a dit, quand j'étais à l'école primaire, il y avait un livre qui racontait l'histoire de Laos. Et ben voilà, apparemment, c'est dans ce livre que c'était écrit.
D'accord, très bien. Bon, on va faire la dernière petite pause, dernière pause musicale, et on se retrouve pour la conclusion de cette émission. Ouais. Allez, à tout de suite.
D'accord.
Et nous voilà de retour avec nos invités, Rosa et François, vous avez compris, hein, ils sont comme l'Adour, intarissables, enfin on espère en tout cas, pour l'Adour, mais pour vous aussi. Oui, donc il y a tellement de choses à dire, on n'aura jamais parlé de tout. On n'a pas parlé du nom d'une personne, c'est Pierre Ardo d'Artigueit, il est un petit peu le fil rouge du village, on va dire, hein, parce qu'il est intégré dans l'histoire, il y a une histoire de cimetière aussi...
Personne ne se flatte d'avoir Artigueite comme d'Artigueite oui. comme personne célèbre, ni Mugron, ni Laos, oui. ni Montfort, dont il est quand même originaire.
Comment qu'a-t-il fait cet homme pour mériter ce traitement?
Eh bien, il était conventionnel. Hein, il était et il est venu dans le Gers et dans les Landes avec la guillotine,
ah.
d'accord, pour simplifier un petit peu.
D'accord, et oui.
Et ensuite, il s'est un petit peu accaparé quelques rôles à la municipalité de Mugron.
Mm-hmm.
Et comme à Mugron, il n'a, même si son épouse avait un petit titre de noblesse et justement un domaine... à Mugron,
mmh.
Eh bien, il lui fallait une maison de campagne. Donc, il n'a rien trouvé de mieux que d'aller au département et de se faire vendre le presbytère de Laos
oui.
qui venait d'être construit par le curé
mmh.
et qui est un bâtiment assez intéressant,
mmh.
eh bien, il l'a acquis comme bien national alors qu'il appartenait à la commune.
Ah oui, d'accord. Paf, et paf.
Voilà. Et il s'y est installé et donc nous l'avons eu à Laos
oui,
et
oui.
il fait partie de l'histoire du village. Mais je raconte tout ça sur mon site.
Et oui, voilà, c'est ça. Oui, c'est comme je disais, il y a vraiment beaucoup de choses. Je mettrai le lien. Et
oui, c'est moi... très long.
Ah oui, oui. Non, mais c'est intéressant. Alors, il y a une chose que je ne vous avais pas demandé, Rosa, parce que bon, François, on sait qu'a été un peu sa trajectoire professionnelle. Qu'est-ce que vous avez exercé comme profession, si vous avez exercé une profession avant de faire tout ça?
Oh, je...
Si c'est pas indiscret.
Je n'ai pas de diplôme qui me permette... de me présenter comme historien.
Oui, mais qu'est-ce que vous faisiez
non,
comme
non,
emploi?
Non, j'ai travaillé, oui. oui.
D'accord, ok, très bien. Voilà, on n'a pas besoin d'avoir de diplôme, hein, c'est pour passer à la radio. Hein.
Oui.
Regardez. C'est, ça, c'est... Et oui, et donc, alors, voilà, donc on a compris que si on va, si on contacte par l'intermédiaire, dans des liens que je mettrai, les offices du tourisme, on peut tomber sur nos invités, et d'autres aussi, on en a parlé un petit peu, hein, d'autres compteurs que vous connaissez, qui sont... qui ont chacun leur domaine réservé, on va dire, qu'ils connaissent.
Oui, ils sont tous notifiés.
Voilà.
Ils sont tous notifiés à l'office de tourisme. Hein.
Voilà, c'est ça. Donc il y a quelque chose sur la. On a parlé du côté de Mugron, je crois que c'est sur un petit peu sur les traditions taurines et
taurine,
tout ça. Voilà.
Herns, ils présentent davantage le port de Herns. Il y a des petits villages qui présentent chacun leur. Mais après, vous en avez plus haut. Ouais. Après, si on monte vers la Haute-Lande,
oui.
mais nous, on parle pour notre région
oui,
ici.
Oui, bien sûr. Hein.
Oui, oui, chaque canton en a, je crois. Ils ne viennent pas toujours,
mmh.
mais notamment Lévignac, l'église,
oui.
Du côté de Perorade aussi. Mmh.
D'accord.
Il y a à Buglos également, mmh. je crois qu'il y a quelqu'un qui fait promener une promenade.
Oui.
Certains vous proposent des promenades à bicyclette
ah
ou
oui.
en VTT, hein,
d'accord. Oui,
carrément,
oui. Oui, pourquoi pas,
à l'étang de la glacière à Buglos,
mmh.
dont l'histoire est assez intéressante.
Oui, bien sûr, oui. Oui. Très bien, alors après, il y a possibilité aussi pour certains auditeurs qui ont une certaine, on va dire, appétence pour ce genre de choses, de se proposer. Comme, qu'est-ce qui se passe? On contacte l'office du tourisme, on dit, ben voilà, moi je suis spécialisé dans, je sais pas, un sujet, voilà, la résine, un truc comme ça, puis voilà, et du coup, on les contacte, et il y a un entretien,
tout,
et puis...
Tout passe par l'office, enfin oui, l'entretien se fait avec l'office du tourisme, parce qu'ils ont déjà, vous savez, toutes les choses intéressantes à savoir quand même.
Oui, sûr,
oui,
mais...
au départ, c'est l'office de tourisme qui a intégré le réseau des Gritters
oui, voilà, puis ensuite,
et
qui a
contacté toutes les mairies. Et en fait, c'est une conseillère municipale qui me connaissait et qui a donné mon nom. Hein.
D'accord.
Voilà, ça s'est passé comme ça.
Très bien.
Et ils sont toujours demandeurs, je pense.
Ben, oui, bien sûr. Ben, c'est très intéressant, comme je disais... C'est intéressant pour les gens du coin, mais même juste du coin, et puis même pour les gens qui sont de passage, les vacanciers, la famille, que sais-je.
Oui.
On est toujours content d'apprendre un petit peu des choses sur le
village ou sur la.
Oui. Voilà, des choses sur l'endroit où on vit, où on passe.
Voilà. Hein, voilà. Et de se rendre sur place et de bien regarder.
Voilà. Et de rencontrer les gens, parce que ça, c'est important.
Oui.
Ça, c'est très important.
C'est important.
Oui.
Parce qu'on apprend, des autres.
Ah oui.
Hein. C'est important.
La discussion entre individus, c'est quand même plus, on est plus proche.
Voilà, c'est ça. Et bien donc, c'est ce qu'on fait à la radio, à distance, mais on essaye de mettre en contact des gens. On fait du bouche à oreille par la radio.
C'est très bien.
Voilà. Merci beaucoup de votre visite.
Merci de nous avoir reçus.
Merci, c'était très intéressant. On aurait pu rester encore longtemps à discuter de tas de détails.
De petits détails.
Ouais, non, mais c'est...
Voilà. Et pour l'origine du nom de Laos, je vous renvoie à mon blog. Parce que j'ai quand même élaboré ma réponse.
Voilà. Alors, sa théorie. Bon, mais voilà, je vous laisse le choix de cliquer sur le lien et d'aller chercher. Voilà, comme ça, vous verrez l'ampleur du travail accumulé. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux et à Dichat.
À Dichat.